Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit, dans un autre corps et dans un autre temps. C'est un corps nouveau qui se présente à vous. Ça pourrait être une bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise. Le corps change pour de mauvaises raisons. Il est atteint, il est malade. Il faut alors l'apprivoiser. C'est comme si le corps que vous connaissiez vous trahissait, s'en allait, pour laisser place à un corps étranger qui ne vous veut pas du bien. La voix, elle, ne change pas. Elle persiste à dire, malgré les transformations, qui on est. Elle fait le lien entre avant et maintenant, entre soi et son corps. La voix maintient tout droit. Elle garde le sens, la raison, la ligne d'horizon. C'est la voix d'une femme, elle s'appelle Maïté. Ce qu'elle raconte n'a pas vraiment de mots, ça s'éprouve, ça s'observe. Depuis 5 ans, sa notion du temps a changé. Ce temps que l'on n'a jamais, après lequel on court toujours, soudain, ce temps-là donne l'idée de sa fin, et il devient infini. Il n'a plus de quotidien, il dilate les heures, il les transforme en attente. Le temps devant soi devient le temps qui reste. Il y a la voix, mais aussi le regard, le visage qui reste. Tout est là, et pourtant on ne sait plus quel jour on est. C'est comme si on était enfermé avec de la liberté, du temps et rien à faire. Vous allez entendre ce qui n'a pas de mots. Ça pourrait s'appeler un portrait, un journal de bord. Ça navigue entre l'ordinaire et l'extraordinaire de la vie. Entre les deux, il n'y a qu'un pas. Quand on perd le statut d'immortel, ce qui change ne se dit pas forcément, mais ça s'entend. Vous allez entendre la vie depuis un poste d'observation bien particulier. Maïté offre son regard, et comme dit Sabine Machère, c'est une femme belle et vivante. Maïté incarnée par Sabine Machère et Nathalie Battus.
Un temps à définir, environ 1 heure. C'est ça d'avoir du temps. Vous décidez de rester les bras ballants et écouter.
Un ami qui me connaît bien, la première chose qu'il m'a offert sur mon lit d'hôpital, c'est un carnet pour écrire, tu vois. Que je n'ai absolument pas ouvert. Le carnet, je l'ai. J'en ai rempli d'autres. Avec des trucs de moi, de cette époque, où je vivais des choses extrêmement intenses. Donc j'ai trouvé le besoin d'écrire, mais pas dans ce carnet-là.
Alors elle dit qu'elle aime bien enregistrer. Voilà. Mais... Et on va arrêter là.
C'est quoi, comment ça? Ah oui, après c'est autre chose. On était où, attends?
On était à celui-là, je crois.
Non, non.
Non, si, si, le buzz, la chance. Je suis sûre que c'était
oui,
ça.
Pardon.
C'est celui-là.
Ah, ça y est, il a recommencé à défiler, donc.
On t'offre un carnet avec une, comme s'il avait une destination. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, si tu veux. Comme s'il avait une destination de recueil littéraire, quoi, tu vois, d'objets littéraires, d'objets.
Je vais aller derrière le
micro, je sais pas. Non, mais je suis enregistrée quand même.
Voilà, comme si c'était un objet où j'aurais pu m'autoriser à écrire quelque chose qui ressemblerait, qui serait de la littérature, par exemple, ce que je ne m'autorise pas à faire. Je peux écrire dans des carnets à moi avec l'idée que personne d'autre que moi les lira, et tout ça, des choses comme ça. Je le fais dans les moments. Dans les moments de.
C'est pas ça, non.
ce qu'on va faire ensemble. Enfin, ton carnet m'a été incarné, et ça sera une chose à écouter.
Vas-y. Un truc à écouter, je m'assois, j'écoute, simplement. Ouais.
Même de rendre audible à soi-même des choses qu'on voit, quand c'est dans le flou, finalement, c'est moins douloureux que quand c'est net, et l'inverse. Des fois, la netteté emballe l'émotion d'une certaine façon et la contient dans des limites. Dans les limites, voilà, l'expression aide.
Alors, je retravaille, je retravaille encore.
Non, mais je suis enregistrée quand même.
Rousseau, Ribeiro, Renard, Ramand, Rapani, Keruel, Pellerini, Pasquet, Keruado, Nongyongan, Mouya, Mimoun, Herzog, Mathieu, Maeva, Lilou, Lévi, Lévin, Léon, Lavielle. Et... La première fois, c'est pas marché. Et la deuxième fois, elle est passée avec quelqu'un.
Avec quelqu'un.
Je voulais faire un gâteau, puis j'ai oublié.
Je me souviens plus comment tu t'es mis à enregistrer. Je me souviens plus à quel moment c'est arrivé.
Alors j'ai commencé, je fais cuire les pommes, mais après... Après, je suis partie faire ma sieste, je vous ai oublié.
Je ne sais pas si j'ai vraiment la tête d'un lichen. Sans doute que non.
Est-ce que tu peux essayer juste d'être ton propre perroquet?
De me répéter.
De parler en même temps?
En même temps, ouais, bah, je vais essayer. Alors, tu peux te remettre au début? J'écoute une fois, mais j'envie sa persistance.
Bah, si tu veux, tu peux aussi tout de suite essayer.
Dans le grand monde, il ne demande rien à personne, sauf un bout de pierre ou d'arbre.
Alors
j'entends rien là. On pourrait dire qu'il fleurit mal, qu'il végète.
Je sais pas si c'est trop fort.
Mais j'aime justement son choix d'être ancré, telle une algue à l'air libre. Ah, c'est la chance de ma maladie, ouais. Très exceptionnelle comme évolution. Alors, je dis...
Tu trouves qu'il y a trop de souffle, c'est ça?
Je n'ai jamais rêvé de voyages lointains, d'horizons fabuleux, d'espace infini.
Il y a du souffle, mais...
Non. D'un poste d'observation modeste, on peut tout voir, à condition d'y mettre le temps.
Oui, il y a des fois... C'est incroyable, quand on travaille plus et qu'on n'a plus de contraintes de temps, enfin, si j'ai des activités qui ponctuent ma semaine et qui font que j'ai quand même une certaine notion du temps, mais je peux tout à fait oublier le jour de la semaine qu'on est. Voilà, c'est...
Ça a l'air bien, hein.
Oui, c'est à la fois très immédiat, c'est-à-dire après, quand tu écoutes...
Après, il y a le téléphone qui sonne.
Comment?
Tu retournes dans la situation.
Oui.
Et c'est même en les répétant que c'est assez beau.
Ça peut être que j'entends pas, moi. Ça veut dire que j'entends pas, Et sur ce point, Lycanor, Orseil, Parmélie, Rossel, Husnay, Verruquer sont autant d'exemples au ras de vivre. Voilà.
On va pas le refaire. Je pense qu'il faut qu'on la liberté. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est exploitable. Il y a un son derrière, il faudra un petit peu peut-être filtrer, deux, trois, atténuer quelques trucs, mais je pense que c'est possible.
Résistance dans la durée.
Bah, c'est déjà un truc.
Capacité d'absorber de fortes tensions. Refus d'être écrasé par le dehors.
De l'entendre à nouveau, qui oui, peut le rendre.
On dit pas
oui,
des choses oui. extraordinaires. Il y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu dans le 1952.
Donc, voilà, c'est une espèce de parenthèse un peu.
J'ai envie de ça aussi.
Un peu. Enfin, je trouve que ça va bien avec ma vie, si tu veux, tu vois. Avec ce temps de vie où je suis un peu ouverte à tout ce qui peut arriver, alors que c'est. Enfin, tu vois, c'est un moment assez précieux en même temps, tu vois. C'est tellement rare d'avoir des espèces de.
Maïté incarnée. Une femme est belle et vivante pour toujours. Elle est médecin, elle danse, elle écrit des carnets, elle a des enfants déjà grands, elle a un prénom, Maïté, et un jour, elle a un cancer, le cancer du pancréas. Le médecin malade, c'est incongru et joueur comme un retournement, comme une erreur judiciaire. C'est une peine. Elle a une maladie que la médecine ne guérit pas.
Ajoutons encore que le lichen ne parasite pas ce qui lui sert de support, qu'il vit à proprement parler de l'air du temps et qu'il est capable de se mettre temporairement en état de mort physique avant de renaître dès que les conditions climatiques s'améliorent. Assez tentant, non ?
Je pense que c'était... Voilà, donc ça s'appelle « Autoportrait en végétal » d'Antoine Emaz, un texte inédit pour cette édition.
Il y a les petits bruits que tu fais souvent. Mais là, bon...
Les petits bruits comme ça, là.
Oui, là, tu l'as fait peu, mais par contre, il y a Thompson.
Thompson qui fait...
Thompson qui s'est mis...
Je sais qu'il a au moins 20 ans, ce frigidaire. Mes enfants ont beaucoup d'amitié pour ce frigo, qui est très vieux. Et eux, ils pensent avoir toujours vu... dans la maison de Paris 10e, où on est resté 15 ans. Et ici, ça fait déjà 10 ans que je suis là, donc il a 20 ou 25 ans, ce frigo. Donc il est un peu bruyant. Quand le moteur se met en route, c'est...
Il s'est mis en route, en fait, au moment où tu as dit à la maîtresse que tu pleurais parce que ton père...
Parce que mon père partait à la guerre, ouais. Ouais.
Voilà, Thompson...
Thompson a fait une interférence.
Bon, et nous sommes quel jour? Le 4. Le 4 janvier 2014.
Ah, on est le 4 janvier, ouais. Exact. Et tout d'un coup, en allant à l'école, en retournant à l'école, j'ai vu tous les hommes en formation, en carré, tu vois, qui se préparaient à partir à la guerre. Et tout d'un coup, j'ai aucun des stigmates qui pourrait faire que la vie soit très pénible et qui me rappelle à l'ordre tous les jours.
J'ai compris que c'était la guerre, quoi. En tout cas, je suis arrivée à l'école et... Dans la cour de récréation, je me suis mise à pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, bah, parce que mon père, il s'en va à la guerre. Voilà, c'était un truc très...
Très peu de choses qui me limitent. Et un petit peu quand même, mais c'est pas incompatible avec faire les choses que j'aime faire.
Tu as envie qu'on recommence aujourd'hui?
Peut-être, on va recommencer, mais un autre truc, parce que... C'est assez génial. À la fois c'est grisant et à la fois il y a une espèce de panique de se retrouver devant une espèce de temps inoccupé. À la fois c'est un truc qui me faisait rêver quand j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que j'étais dans un temps très très contraint. Et en même temps, une espèce de vertige de se retrouver devant tant de liberté. temps qui paraît infini.
Alors
j'entends rien là.
Non, parce que ça marche pas.
Un temps à inventer. Lichen, pourquoi pas? C'est aussi une façon de... C'est vrai que je suis très... Tu vois, par exemple, je fais beaucoup de piano. Ça a pris beaucoup d'importance dans ma vie, parce que c'était un rêve d'enfant. Et tout d'un coup, c'est extraordinaire d'avoir le piano dans ma vie. Non, c'est vraiment un végétal. Il a une vie plus... il a une vie plus... végétative, si je puis dire. Il est plus ralenti, il a une croissance lente, il n'est pas exubérant, il n'est pas florissant, il n'est pas... voilà. Mais Lucenay, par exemple, qui est le seul que je connais dans la liste des canards, Orseille, Parmalee, etc. Lucenay, c'est celle qui fait des barbes sur les vieilles branches, là, celle-là, on la connaît bien. Je commence à savoir mieux faire, parce que quand tu as beaucoup de temps, tu peux partir dans toutes les directions, tu es très... C'est très papillonnant, tu passes d'un truc à l'autre. Donc il y a une espèce de... Alors effectivement, on a tendance à... sur les arbres, on a tendance à le retirer parce que c'est un arbre absolument couvert de lichen. En général, il est proche de sa mort.
Lucenay,
c'est très joli, moi j'aime bien ça. Et la musique aussi me réapprend la discipline du temps. C'est-à-dire, pour faire un truc qui se tient, ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur. Je me rends compte que c'est le matin que je joue le mieux. Et je suis en train de la saler vraiment. Sinon, si je commence à faire autre chose, le temps sera passé. Et puis voilà, quoi. Donc je redécouvre une espèce de discipline. Maintenant, c'est ton heure de piano, et c'est ça ce que tu poses la question. Et oui, j'en ai fait, là, ça y est. Oh là là, je vais aller voir peut-être. Hein. je sais pas quand même si c'est une plante qui fait tant de bien que ça. Aux arbres. Sur les rochers, ça n'a aucune importance, mais sur les arbres, j'ai l'impression que ça en a une quand même. Enfin, pour moi, c'est un arbre couvert de lichen, en général, il est...
D'un coup, j'ai entendu sonner tous les téléphones, je me suis dit... Ah oui, t'as rien fait, ouais.
Maintenant ?
Après.
Mais quand on écoute l'enregistrement, quelle donnée, tu veux dire ? En fait, moi, c'est... En fait, voilà, si. Moi, je sais que j'ai envie de travailler par fragments. Et que je trouve que souvent, quand on entend, par exemple, j'ai écouté ce qu'on a dit l'avant-dernière fois, ou la dernière fois, où tu dis que tu te sens un peu transparente. Et tu parles au début, tu dis, oui, bah, je suis passée de la taille 40 à la taille 36. Et tu sais que si on coupe juste avant que tu dis, enfin, avant que ça se complète, on peut être, ne pas comprendre pourquoi tu dis ça, parce que beaucoup de femmes rêveraient de passer de taille 40 à 36.
C'est vrai.
Je trouve que tout le temps dans nos rencontres, il y a quelque chose de enfin, tu as parlé de ce paradoxe, et c'est un peu ça qui, au départ, m'a attirée. C'est de voir que tu avais une vie qui, finalement, était plus libre maintenant.
Il faut être très précautionneux avec cet objet.
Oui.
Tous les bruits... tous les bruits.
On entend rien, le frigo.
Au début, tu as beaucoup dit que tu avais beaucoup de chance, que tu étais très...
Oui.
Comment tu le vois aujourd'hui?
Je le pense encore plus qu'avant, si tu veux. Maintenant que je suis passée de l'autre côté, d'une certaine façon, c'est-à-dire que là, je suis passée du côté...
Il faudrait que je fasse tout à l'heure une petite
ouais, ça va bien, une prise. Ouais, aussi un peu peut-être la cuisine particulièrement.
Je mesure la chance inouïe que j'ai eue pendant 5 ans d'aller tellement bien. Aller tellement bien. C'est pas la chance d'être malade, c'est la chance de traverser une maladie mortelle dont avec un pronostic effroyable, ce qui est redit dans tous les livres et dans toutes les revues, et d'avoir pu vivre ce temps tellement bien, quoi. C'est sans souffrance, sans déchéance physique, sans voilà. Je pense que c'est
qu'on aille dans la cuisine.
Nathalie enregistre un peu les bruits dans la cuisine. Tu vois, pour avoir un peu les sons,
oui.
Les sons qui t'entourent. Mm-hmm. En plus, là, maintenant, j'ai un acouphène.
C'est du silence, mais effectivement, c'est avec le frigo qui n'est pas trop loin.
Pour c'est le frigo qui fait du bruit là-bas. Oui, oui. Ouais. Okay. Il est vieux.
Le temps passe sans silence. Je la vois dans une fête, souriante, gracieuse, un peu marquée. Je lui propose de nous rencontrer pendant un temps et lui demande de me parler de son corps. Je l'enregistre avec un appareil qui fait des sons parasites pendant les enregistrements. Il y a du trouble, mais c'est joyeux.
Je me rends compte que le temps se distance, c'est-à-dire que je me levant vers 9h ou 8h ou 9h, enfin dans ces eaux-là, je peux presque mettre 2 heures à pouvoir être prête à faire quelque chose. C'est le temps de faire les choses tranquillement, etc. Et c'est vrai que ça me fait penser à ma mère, parce que j'imagine quel pouvait être son rythme de vie de femme au foyer. Elle a quand même passé beaucoup de temps à élever ses enfants, donc à être dans sa maison. Les boulots à l'extérieur, elle en a fait peu. Elle en a fait quand même, mais peu. Et je me souviens aussi, alors ça, elle racontait toujours cette histoire. Donc, et elle disait, comment je suis rentrée à l'école? Parce que la directrice de l'école du Fort, de l'école des garçons, c'était une école à part, était une communiste, une dame communiste, et elle avait repéré ce petit garçon qui arrivait avec des blouses toujours bien repassées, qui était mon frère. Elle s'est dit, ça c'est une dame bien. Donc elle lui a demandé de travailler dans les écoles comme ça. Et donc les choses de la maison ont plus d'importance, puisqu'on y passe plus de temps. Donc, ma mère était toute jeune quand elle est arrivée à Paris, elle avait 19 ans, elle n'était jamais sortie de sa campagne, elle ne savait pas faire le marché, elle savait, tu vois... Les Landes, c'est un pays assez pauvre et autarcique, où les fermes, les gens dans les fermes, ils vivaient de leur production et ils achetaient très peu. Ils tissaient leurs draps, ils fabriquaient leur pain. Enfin, tu vois, ce qu'on appelle faire des courses, acheter des ustensiles, c'était très très peu de choses. Donc elle savait rien de tout ça et elle racontait. Ma mère était très bavarde, elle racontait volontiers. Je fais mon lit tous les jours, des trucs.
Mais les lits, c'est important. Tu ne le faisais pas avant?
Si, je m'efforçais de le faire quand même. Enfin, à la limite, je le faisais plus souvent. Je le faisais plus souvent quand je partais travailler, parce que j'avais horreur de retrouver ma maison, tu vois. Une maison pas agréable à habiter.
Je commence à savoir mieux faire ça, parce que aussi quand tu as beaucoup de temps, c'est pas par quel outil prendre, toi, c'est très, il y a un temps très papillonnant quand tu passes d'un truc à l'autre à toute vitesse et
Ah, on l'entend vraiment fort.
Et là, il y a vraiment des fois où j'ai la flemme de faire mon lit.
Oui, on entend ce que je dis quand même. Enfin, j'ai pu répéter. Ça ne couvre jamais ma voix, mais,
ouais.
Mais c'est gênant, ouais, j'imagine.
Donc je suis partagée entre l'envie que ma maison soit agréable et reste une maison qu'on peut traverser comme ça, et le fait que... C'est... Je sais pas comment dire, c'est...
c'est à double tranchant quoi, de se retrouver à la maison comme ça. Il y a des choses que j'aime beaucoup faire, genre cuisiner. Donc, en ce moment, je suis dans une phase où je cuisine beaucoup tous les jours, ce que faisait beaucoup ma mère aussi, elle aimait bien.
Et c'était pareil la nuit, c'est-à-dire si je mangeais trop le soir, j'étais obligée de me rasseoir dans mon lit pour que... Enfin bon, voilà, c'était extrêmement... Jusqu'à la fin de l'été, où vraiment, là, plus rien ne passait du tout. Là, je...
Et puis, l'impression d'être envahi aussi par les choses ménagères. Tu vois, si tu veux, tu peux passer beaucoup de temps quoi, à faire ça. C'est...
Et les carnets, tu sais... tu m'avais parlé aussi des carnets. Tu disais que... En fait, en ce moment, tu écris ?
Non, je ne crois pas du tout, non.
À nettoyer, à ranger, à faire que ce soit propre, etc. C'est... Bon, en tout cas, ça me fait beaucoup évoquer la vie de ma mère, quoi.
Je n'aurais pas du tout. Non. Non, je suis d'humeur trop... Je suis d'humeur trop variable pour... Tu sais, des fois, t'as l'impression que d'écrire, ça plombe, ça fixe les trucs. Et les envies d'écrire, ça devient les jours où ça va pas, et les jours où ça va pas, les jours où ça va pas du tout, quoi. Donc... voilà, je peux changer d'humeur très, très, très vite, en fonction d'une sensation physique que j'ai. Et les jours où j'ai une mauvaise sensation, c'est vraiment très noir, quoi. Donc, j'ai pas envie d'écrire. J'ai pas envie d'écrire à ce moment-là. Tant que ça passe, quoi. Tant que ça passe.
Dire que c'était... Que j'ai... D'emblée, j'ai pas connu ça. C'était... Enfin, comme il n'y a pas eu de rupture entre le temps de l'école, puis les études, puis le moment où j'ai commencé à travailler, il y a toujours eu, dans ma vie, les choses de l'extérieur ont toujours eu beaucoup d'importance. Quoi. Et là, de me retrouver tout d'un coup comme une femme au foyer, un côté de renfermement et un autre côté, un dilettantisme agréable. Mais quand même, je peux ressentir ce que pouvait être cette impression d'enfermement. Quoi. Je pense aussi beaucoup aux films faits, les films américains où on voit des ménagères. les films américains des années 50-60, tu vois, où tu vois les ménagères, tu vois, les housewives, qui vont chez le coiffeur, qui rangent leur maison, qui vont boire le thé à droite.
Tu te sens
stressée par les enregistrements ?
Non.
Non.
Non, 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 pas du tout. Ça. Au contraire, c'est plutôt... c'est plus léger que d'écrire, quoi, d'une certaine façon, de parler comme ça. C'est quelque chose de moins... une espèce de rumination que tu as quand t'es dans un... Dans l'écriture, bon, que tu peux sucrer après, mais bon, un carnet, c'est un carnet. Quoi. C'est, moi, je les relis pas toujours, je ne vais pas rayer. C'est... J'ai entendu aussi que j'arrêtais pas de renifler. Sur...
oui, c'est vrai, moi j'ai entendu aussi. Ouais.
Ouais, tout le temps, mais ça, c'est des...
Non, pas tout le temps.
Parce que c'est le sentiment de devenir, indépendamment de sa volonté, transparent. Hein, et... Enfin, quand je les relis, c'est toujours surprenant, parce que j'ai complètement oublié les moments où j'ai écrit ça. Et ça me fait drôle de retrouver des humeurs, quoi, des moments... En même temps, je sais que j'ai accumulé une matière en ce dans quoi tu baignes et qui t'est nourri. Et en même temps, c'est
déposer, c'est déposer l'art, quoi, d'une façon presque inemployée, je dirais.
C'est quelque chose qui se met à mouliner avec des, plein de, d'éructations, de mouvements de ventre complètement invraisemblables. Tu vois, je disais, il y a des moments où je regardais mon ventre et j'avais l'impression de voir bouger un enfant à l'intérieur, tu vois, tellement les mouvements de, du tube digestif étaient violents et...
Je sais pas comment dire ça, au-delà de ça, je ressens une espèce d'appétit de consommation des choses qui dont tu tires pas toute la moelle, tout le centre, tout le, dont tu goûtes pas toute la richesse parce que
tu manges assez doucement parce que dès que ça arrive dans l'estomac, ça se met à distendre terriblement le ventre. Et une fois que le ventre est très très distendu, tu as vraiment l'impression que ça monte, et que si tu continues à remplir, tu vas vomir, quoi, ça va déborder. La première fois que je me suis vue debout dans la glace après au mois de septembre, là, j'ai l'impression d'avoir un ventre tout plat pour la première fois depuis des mois, là où j'avais été très ballonnée, distendue pendant des mois. Avec le ventre tout plat, avec une peau comme du papier crêpe.
Il faut que je mange dessus du ventre, en mastiquant longtemps, pas des trop grandes quantités. Dès que je sens que c'est assez, il faut que je m'arrête immédiatement, sinon je vais mettre 4 heures à digérer, voire 6 heures à digérer, voire y passer la nuit, voire... tout cher pour des raisons je sais pas quoi qui tiennent probablement son aspect, moi j'en ai jamais vu en vrai, mais parce que ça, enfin pour les premiers qui ont ouvert des ventres, ça ressemblait à un bout de, un morceau de chair ou de viande, quoi.
Enfin, là il y a marqué tête du pancréas 7.
En fait il est derrière l'organe entier, il a une tête comme ça, il a une queue derrière, allons le voir.
Mais ça se mange pas, le alors, pancréas?
Non.
C'est ça, peut-être?
C'est ça. Voilà.
C'est tout ça, ouais. Cette chose fine et
longue. Oui, c'est ça. Là, on regarde devant. Ouais, si je t'ouvrais le ventre comme une porte, là, on verrait tout ça.
Ouais.
Et là, on regarde par derrière.
C'est... On arrive par le
derrière.
Dos.
Par derrière, tu arrives par le dos.
D'accord.
Et donc, tu
d'accord.
Vois, le, ouais. Tu vois la tête et la queue du pancréas, là. Alors, pour en revenir à nos histoires, je ne sais pas... ce qui fait qu'on voit pas la forme aussi, c'est que dans l'écriture il y a une espèce, voilà, dans l'écriture il y a un travail, tandis que là il y a une parler, c'est comme un espèce de robinet qui s'ouvre et puis c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, c'est tailler dans le bavard.
Le centre de toi physiquement pour toi c'est quoi, enfin qu'est-ce qui le centre, je veux dire la partie la plus importante de ton corps?
Les jambes, c'est assez merveilleux parce que ça nous porte, ça danse, ça...
De mes jambes
c'est bizarre,
pourquoi de mes jambes?
Je sais pas, c'est la dernière fois que j'ai pensé ça, j'ai pensé les jambes.
Ce qui porte, c'est ce qui te porte.
Dans le corps lui-même, je compte plus sur mes jambes que sur mes bras. Mes bras, je les ai toujours trouvés faibles. Tu vois, avec difficulté à faire les équilibres de main, les roues, les trucs comme ça, j'ai pas confiance dans mes bras. C'est un truc de tout le temps. Alors je sais pas d'où ça sort ce truc-là, mais ça a tout le temps été comme ça. Alors je me sens très solide sur mes jambes, avec, je les aime bien, je les dis, c'est un truc, un truc qui fait que je suis profondément ancrée dans la terre. Et en même temps, j'aime être élancée. Ça peut être... Il y a toutes sortes de jambes dans la vie. Hein. Il y a des jambes aériennes, et il y a des jambes pesantes et lourdes, et tout ce que tu veux. Et Bon, c'est ça que j'aime bien dans mes jambes, moi. J'ai vraiment des... Je trouve que j'avais une belle forme de jambes. Et puis, comme j'aimais bien danser, je m'en suis beaucoup servi de mes jambes.
La danse, c'est un rêve d'enfant aussi, un peu comme le piano. Hein. J'avais dû lire quand j'étais petite un livre de la Bibliothèque Rose, ouverte, je sais pas, qui s'appelait Irène à l'opéra. Et alors vraiment, je vais avoir 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. J'avais dit à ma mère, moi dans la vie, je vais être danseuse ou fleuriste. Bon, j'ai fini médecin, c'est pas pareil. Mais...
il se passait quelque chose qui n'était pas habituel et qui me dépassait, qui m'inquiétait suffisamment, en tout cas pour que j'aille me confier à quelqu'un, quoi. Contrairement à pas mal de médecins qui disent « je vais m'en occuper toute seule, je vais faire ci, je vais faire ça », moi j'aime pas. Tu lançais toujours sur des sujets assez près de mon corps, de la chair, de... Voilà, c'était... C'était souvent par morceaux, ouais. jusqu'au pancréas aujourd'hui, effectivement. au cœur de l'action, si je puis dire. Voilà.
C'est quoi ça? On est dans l'os, là?
C'est les chimios qui font ça, en fait. Les chimios, ça altère donc les cheveux, le système pileux, etc. Donc ça modifie la qualité des muqueuses, du nez, des yeux, etc. Donc j'ai les yeux qui pleurent dehors, j'ai le nez qui coule dedans, dehors, partout, à un point inouï, c'est-à-dire que je baisse la tête et hop, ça coule tout seul, quoi, tu vois. Donc je suis tout le temps un petit peu en train de renifler, ou de me moucher, ou de... Voilà. Tout le temps.
Je me sens gâtée par la nature, quoi. Enfin, j'ai une super nature de cheveux. J'ai eu des cheveux très longs, très longtemps. Quoi. Jusqu'à 30 ans, j'ai eu des cheveux très longs, mais très longs. Quoi, hein. Une chevelure extrêmement épaisse, extrêmement belle. Donc j'ai eu du mal à me séparer, mais j'étais très contente de m'en séparer aussi.
Et pourquoi tu t'en es séparée?
C'était un changement de vie, comme souvent les trucs avec les cheveux, hein, c'est souvent comme ça. Ouais. Un jour, j'ai coupé mes cheveux et dans le mois qui suivait, j'ai quitté l'homme avec qui je vivais. Enfin, c'était un grand moment de libération pour moi, de passer à autre chose, d'avoir cette force-là. Et le moment où j'ai coupé mes cheveux, ça correspond à ça. J'ai abandonné quelque chose de moi qui me retenait. dans un truc mortifère et dont j'étais... J'ai jamais été aussi heureuse de quitter un homme, tu peux t'imaginer le fait que ça m'a fait, c'était vraiment...
Les beaux cheveux, ouais. Bah, j'ai de la chance, on m'avait dit qu'ils allaient tomber, mais ils sont pas tombés, donc ça marchait, le casque glacé, là.
C'est quoi?
C'est un casque réfrigérant sur le temps de la chimio, pendant une heure à chaque fois, qui empêche que le produit toxique aille jusqu'au cuir chevelu, donc. Et il m'avait dit, bon, il y a beaucoup de chances que vous perdiez vos cheveux, mais on va quand même mettre le casque, parce que chez certaines personnes, ça marche. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis coupé les cheveux, parce que je suis allée essayer des perruques courtes, et j'ai trouvé que ça m'allait bien, comme j'avais bien maigri. Quand j'étais au carré, ça m'a l'impression que ça me mangeait le visage, et je me suis fait recouper les cheveux en disant, ah, ça redonne de la lumière, c'est bien, c'est bien. Voilà, ouais, c'est... Je devais dire ça déjà, non?
Non.
Hein?
Non,
pas ça du tout.
Et tu en as avec toi toujours, des carnets?
Non. Non, ils sortent pas d'ici, hein, mes carnets. Sauf en voyage. En voyage, j'emporte. J'emporte parce que voilà, j'oublie. Donc là, j'essaye de pas tous les perdre. Hein. J'essaye de les d'en garder en mémoire ceux que j'aime beaucoup et de pouvoir les rejouer après. Ils ont des casques qu'ils alimentent régulièrement en produits glacés. Ce qui est moins... Un jour, ils ne l'avaient pas, ce casque-là, parce qu'ils étaient tous occupés. Donc, ils sont allés sortir du congélateur un casque qu'ils te mettent direct comme ça. Et là, c'est beaucoup plus saisissant. Surtout qu'ils se réchauffent rapidement. Donc, il faut qu'ils aillent en chercher un autre glacé, qu'ils te remettent un deuxième en cours. Donc là, c'est plus violent.
Non, en pas fait, forcément. On se demandait si tu serais peut-être prête à lire quand même une phrase ou deux d'un de tes carnets?
Oh là là, j'en sais rien. Je vais faire un tour parce que je ne sais pas. Il y a longtemps. Hein.
Je vais pas toucher les carnets.
Ça fait froid à l'intérieur, quoi. Faut que j'y vais avec mes écharpes et mes pulls pour me couvrir, pour pas me refroidir de l'intérieur. Mais c'est supportable. C'est vraiment supportable. C'est pas trop terrible, ça.
Attends, je me chauffer les doigts un peu.
J'ai pas retrouvé l'autre carnet, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc je crois que l'autre, je sais même pas où il est. Ah, c'est reparti.
Comment ça s'est reparti?
L'enregistrement.
Ah oui.
Ah, je crois que c'était fini.
Moi aussi.
Ouais. 21 juin 2013, premier jour de l'été. Le temps est morose comme mon humeur. Après les nouvelles turbulences du printemps, reprise de l'activité tumorale sous traitement, compression biliaire, intervention début avril, cycle des douleurs et des troubles digestifs marqués, interdisant toute reprise de poids, me voilà revenue à la case départ. Les cheveux qui tombent doucement, qui deviennent crépus et incoiffables. Ce qui me pèse est un autre ordre. Seul reste de nous les faits, pas les silences, pas l'absence, pas les pensées, ni le ressassement. Alors, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, après, c'est blanchir les champignons, couper en morceaux quelques secondes dans l'eau bouillante salée, ils remontent à la surface, ne mettre que les cèpes frais, jeunes, à barbe très ferme, les tasser dans un bocal type confiture, avec un petit peu d'eau, quelques grains de gros sel, stériliser un temps à définir, environ une heure. D'océan justement que j'ai fait assez longtemps, je dis très longtemps que je l'ai pas fait. Où tu sais, dans l'océan Atlantique, en tout cas dans les Landes, il y a des vagues énormes parfois, donc il faut vraiment toute une technique à prendre pour aller plonger sous la vague pour pas se faire écraser, bouler, chambouler par la vague. Donc tu plonges dedans, et puis dans mon rêve, donc il y a des vagues particulièrement énormes. Et donc j'ai peur, j'ai vraiment peur, quoi. Donc je plonge quand même, je plonge. Et l'énorme rouleau se retourne sur moi et je me retrouve dans une voûte d'eau. Et sous la voûte d'eau, c'est une galerie de peinture. Il y a des peintures partout. Et du coup, ça me calme, quoi. La peur s'en va parce que je me dis, non, c'est pas du tout effrayant comme je pensais, finalement. C'est très civilisé comme endroit. Puisque ceux qui l'ont découvert... croyait arriver au paradis. En tout cas, ça se calme. Ça se calme. Tout en gardant un petit arrière-fond de terreur, mais c'est...
poisson.
Dans les Landes, il n'y a pas de poisson. Hein.
C'est décuplé par la perception de cette chance, effectivement, c'est-à-dire de d'échapper miraculeusement à un destin qui était tracé autrement, quoi.
De toute façon, de leur famille, c'est les seuls qui quittaient la campagne. Donc je pense que déjà, ils avaient un esprit d'initiative assez... Ils avaient un esprit d'initiative, quoi, que n'avait pas le frère de ma mère, que n'avaient pas ses frères et sœurs. Donc ils l'ont fait, ils ont quitté, ils sont arrachés à leur pays. Et
voilà, quand tu lis les revues de médecine ou n'importe quel article sur le sujet, tu te dis, voilà... C'est...
Voilà, bon, j'ai pas encore apprivoisé ce corps nouveau. Hein. C'est très. J'espère pas le garder comme ça. C'est... enfin, je suis quand même obligée. J'ai plus aucun habit qui me va. Donc, je vais dans les bazars me chercher des habits à 2,50€ taille 36. en espérant repasser à taille 38 ces jours. Mais là, plus rien ne me va, quoi. Je fais des tours et des retours à mes pantalons. Enfin, bon, c'est horrible, s'habiller dans les habits d'avant, là, c'est...
Moi, j'ai dû vivre, là, dans cette caserne, jusqu'à mes 10 ans. Ouais, c'est ça, jusqu'à mon entrée en 6e. Pour moi, c'était un temps assez heureux et libre. C'était très... Tout en étant une vie d'enfant de gendarme, mais c'était... Et puis, mon père a quitté l'armée à ce moment-là. Parce qu'il ne voulait plus partir en Algérie. Et mon père, il était encore, il avait un statut un peu particulier. Il était infirmier, lui, dans la gendarmerie. Donc, je pense qu'il n'a pas participé à des faits de guerre aussi durs que certains ont pu vivre. Enfin, de toute façon, on en a su très, très peu de choses. Hein. Il ne parlait pas du tout de ça, mon père.
Et puis, alors que les retours d'Algérie, c'était un truc...
Dans les Landes, il n'y a pas de poisson. Hein. Enfin, dans les Landes, c'est l'océan, donc c'est une mer extrêmement agitée, violente. Et,
C'était un truc, pour nous, exceptionnel, parce que les hommes rentraient avec des cadeaux. Tu vois, ils rentraient avec une caisse d'oranges d'Algérie, ils sont rentrés avec les premiers transistors miniaturisés. Tu vois, on avait encore des radios à galène, là, des trucs, des postes jolis là, qu'on trouve dans les brocantes maintenant.
Dans les Landes, c'est difficile d'apprendre à nager, donc en fait, on allait... à l'embouchure de la rivière qui se jette là, ou qui fait un espèce de bassin, où c'était moins effrayant d'apprendre à nager. Quoi. Donc,
Est arrivé avec le premier transistor, ou un électrophone Tepaz, enfin, tu vois, des trucs qu'il achetait là-bas, ou qu'il achetait en transit, je ne sais pas, partant en bateau, je ne sais pas comment il revenait, mais en tout cas, voilà, c'était l'arrivée des nouveautés, le retour des pères, tout ça, c'était des moments très... très joyeux. Mais en revanche, je me souviens d'engueulades mémorables, phénoménales, entre mon frère aîné qui a 10 ans de plus que moi. Donc il avait 20 ans à l'époque de Charonne, par exemple, tu vois. Donc je me souviens d'une engueulade qui avait eu lieu entre mon père et mon frère à ce moment-là. Mon frère, tu vois, il était étudiant, il était déjà férocement antimilitariste. Et donc... je me souviens d'engueulades qui me terrifiaient. Ma mère se mettait à pleurer tout de suite. Donc moi, je passais sous la table ou j'allais dans la chambre, quoi, tu vois. C'est des trucs...
Je pense qu'on s'apprenait entre nous. Hein. C'est mon père qui a dû m'apprendre les mouvements. Et lui, nager. Ma mère, non.
Ça, je l'ai raconté, non. J'ai jamais appris à faire la cuisine avec ma mère parce que c'est trop compliqué. Mais après sa mort, j'ai appris à faire les conserves landaises, les confits, les foie gras, etc. Avec une amie cuisinière de ma mère, que je connaissais bien, et qui est venue m'apprendre. Donc on a fait des stages de canard, c'est-à-dire qu'on était menés à la baguette, et elle nous tirait du lit à 8h du matin pour commencer nos conserves.
C'est comme ça que j'ai appris, en fait, à libérer cette tension et à aller jusqu'au fond de l'eau en expirant vraiment la dernière bouffée d'air. Et quand tu n'as plus d'air dans les poumons, bah, tu coules, effectivement. Tu coules, tu vas au fond. Tu vas au fond. Voilà, puis après, tu vas chercher ton air. Mais
le temps m'aurait été donné, en tout cas, d'en profiter vraiment pendant ces 5 ans, énormément, quoi. J'ai joué beaucoup. Là, maintenant, je joue tous les jours, comme je suis plus en forme. C'est un peu... Bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est un grand plaisir, la musique. Ça, c'est vraiment... Enfin, je l'ai dit plusieurs fois. En même temps, j'ai eu un regret d'avoir fait si vite. C'est-à-dire, forte de cette connaissance que j'en avais pour quelques mois, j'ai décidé d'arrêter mon métier, j'ai décidé de céder mon cabinet, j'ai décidé de passer à autre chose. Mais je me suis trouvée physiquement... ressentir que j'aurais pu tout à fait continuer à travailler.
On est un peu sur une île.
Mmh. Oui, oui.
C'est à la fois grisant et un peu...
Ça fait d'air les...
C'est un peu inquiétant aussi. Il y a des moments où...
Les désirs de...
Il y a des moments où...
Faire des choses ensemble.
Une petite angoisse qui te rattrape, qui fait que tu tournes comme une mouche dans un bocal, hein.
La voix.
Non, la voix n'a pas changé, je crois pas. La voix n'a pas changé.
La peau a changé.
Le regard, c'est différent. La lumière du regard, c'est...
J'aime bien les... C'est une chose que je regarde toujours dans les visages. Quoi. C'est très... très important quoi, le clair des yeux, un truc qui me après c'est pas tellement des parties du corps quoi. Ce que je regarde aussi chez des gens, c'est la façon de déambuler, la façon d'être avec leur corps, c'est...
Quoi, la force de résistance quand même.
C'est particulier de toucher les corps. Enfin, toucher les corps quand tu es médecin, c'est un exercice particulier. Tu es dans une distance, et en même temps, tu l'as ce contact physique. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais consulté sans examiner quelqu'un. C'est très très rare. J'ai toujours éprouvé le besoin de, même par rapport, même avec un instrument, si tu veux. Mais à un moment dans la consultation, je ne pouvais pas imaginer un moment où je n'avais pas un contact physique par rapport à la pointe, bien sûr, mais aussi mesurer la tension, même si ce n'est pas utile dans la consultation.
Le médecin généraliste, c'est ça. C'est pas d'un endroit où on discourt sur l'humanité, mais en revanche, on a une vision de l'humanité assez fabuleuse. Et c'est quand même un poste d'observation extraordinaire, tu vois, sur la vie en général. Voilà, donc tout ça, voilà pourquoi tout ça me parle particulièrement, quoi, à la fois du côté de la maladie et à la fois du côté de ce qu'a été mon activité professionnelle. Bon, je me souviens en tout cas des premières sensations que j'avais eues au début de la maladie, qui était un sentiment de trahison que j'avais dû dire assez fort, quoi, que j'avais l'impression de vivre dans une certaine amitié avec mon corps. Jamais eu trop recours au médecin, non. Non, j'ai toujours été en bonne santé. Je me suis mis à fréquenter le marché de la poésie. J'étais déjà malade, probablement. Il faut avoir le temps pour aller au marché de la poésie. Et je trouvais que ça...
Bon, ce truc, en tout cas, ça... inconnu qui me tombait dessus et que je ne pouvais rien, évidemment, non plus.
Je ne sais pas quoi, il y avait quelque chose dans sa résistance, sa persistance, son opiniâtreté à survivre dans des conditions extrêmes qui me parlait très fort à ce moment-là. Tu vois, elle est capable de se mettre temporairement en état de mort physique avant de renaître, dès que les conditions s'améliorent. Je connais ça depuis 5 ans.
Très. Voilà. Alors, je préférais être une pivoine qu'une husnée, mais plus jolie, mais. Lichen, pourquoi pas? C'est aussi une façon de. C'est... Ça aussi, j'aimais bien, tu vois. Non d'un poste, je ne rêve pas d'espace infini, d'horizon fabuleux, mais d'un poste d'observation modeste, on peut tout voir, à condition d'y mettre le temps.
Je me souviens la première fois que j'ai plongé. J'avais jamais plongé en piscine, quoi. C'est, tu vois, j'ai plongé sous les vagues, mais plonger en piscine, j'avais jamais fait. Je ne savais pas faire le mouvement, et à un moment, il faut le faire, quoi. Tout d'un coup, si tu arrives à lâcher ça. Eh ben, enfin bon, c'est des choses qui sont difficiles à raconter parce que ouais. ça s'éprouve et ça se. Je pense pas que personne me l'ait expliqué, mais enfin, si, probablement qu'ils nous disent. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est là que j'ai senti pour la première fois que c'était possible et que. Tout d'un coup, il se passait quelque chose qui m'échappait complètement, que je connaissais pas.
Stop. J'arrête. J'arrête. Bon, maintenant là.
Ah. Bon, dans les grandes activités comme ça que j'ai repris depuis que je suis arrêtée, il y a la lecture aussi, ça c'est un truc. Voilà, et puis t'as vu, je lisais Sebald aussi, là que j'ai découvert cette année. C'est une chose qui me manquait pas mal dans mes années de travail, parce que Sebald, j'ai lu Austerlitz qui m'a. Infiniment même plus. Si tu lis tous les soirs, moi je m'endormais tous les soirs sur mon livre, quoi. J'arrivais jamais à lire tout mon souffle.
C'est le moment où il récupère la mémoire de son passé par des visions presque hallucinatoires, au moment où il pénètre dans un lieu fermé de la gare et tout d'un coup il se revoit enfant, puis à partir de là il déroule voilà.
Ah, j'aurais pas pensé en dire un livre déjà.
Ça s'appelle un livre de brouillon, et ça. Ah oui, tiens, c'est commencé en 2008. Ça a commencé juste à la veille de. Et là, il y a des écritures jusqu'en novembre. Après les champignons. Après, il y a le 11 septembre, drôle d'anniversaire, Pinochet, Twin Towers, deuxième séjour à la clinique de l'Alma. Voilà. Non, c'est que des tristesses dans ce carnet. Ça se termine par comment trouver encore la force d'un bonheur du jour quand tout est si noir et bouché et la fatigue si écrasante. Pas terrible. Vivelasoupe.com. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner encore? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le même jour. Apparemment, c'est pas le même stylo.
On s'arrête là.
Maïté incarnée.
Vous voyez bien maintenant? Tu nous envoies les fichiers. C'est quoi la dernière fois? Tchuss.
À bientôt.
Merci.
Avec un texte inédit de Antoine Emaz, autoportrait en végétal, atelier des grammes, lu par Maïté Lavielle. Remerciements à Maïté Lavielle, Nathalie Battus, Catherine Chaumier, Pierre Gaudin. Coordination, Irène Omelianenko, Inès De Bruyne, Alice Ramon. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Nathalie Battus. Un atelier de création proposé par Sabine Macher.
Les jours rallongent, t'as vu, il fait plus nuit maintenant quand on sort à 6 heures. C'est chouette.
Vous pouvez réécouter et podcaster Maïté incarnée par Sabine Macher et Nathalie Battus sur le site internet de France Culture. On se retrouve demain soir à 23h dans les ateliers de la nuit avec l'atelier de création radiophonique L'incendie de l'ange par le duo Maria Clonaris et Katharina Thomadaki. En attendant, il sera bientôt minuit, Vous écoutez France Culture et vous passez avec Alain Weinstein du jour au lendemain.